Saint André-Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix, en collaboration avec Jeanne-Élisabeth Bichet des Âges. Saint André-Hubert Fournet, 1752-1834, est fêté chaque année le 13 mai. L'abbé Philippe Beitia.
La vie et le ministère de Saint André-Hubert Fournet. D'après l'étude qu'a fait un prêtre de Poitiers, le père Russel. La notice de Cousseau. Antoine Charles Cousseau publie cette notice donc un an après la mort d'André Hubert Fournet. Bon, il est professeur, ce Cousseau est professeur au séminaire de Poitiers à l'époque. Donc, dans le fond, nous avons là des renseignements fiables. Donc, cette notice de Cousseau campe clairement le contexte familial. André Hubert Fournet naquit le 6 décembre 1752 à Pérus, village de la paroisse de Maillet, dans la partie du diocèse de Poitiers qui confine avec celui de Bourges. Il eut le bonheur de recevoir dans sa famille les premiers exemples et les premières leçons des vertus chrétiennes. Sa mère Florence Chasseloup, femme pleine de foi, mettait au premier rang de ses devoirs le soin d'instruire ses enfants de leur religion et surtout de la leur faire aimer. Son père, Pierre Fournet, originaire de Thoiré, n'était pas moins distingué dans le monde par sa piété que ses quatre frères ne l'étaient dans l'Église. Le père d'André Hubert a en effet quatre frères prêtres. Un tel environnement familial a une réelle influence sur l'éducation d'André Hubert. André Hubert grandit dans l'amour de ses parents et de ses frères et sœurs. Enfin insouciant, rieur, exubérant, il préfère le jeu au travail. Pensionnaire au collège de Châtellerault, il est aimé de tous ses camarades pour son joyeux entrain et sa franchise. Première institutrice d'André Hubert, sa mère est étonnée par l'exubérance de son enfant, mais elle connaît aussi son cœur et son grand fond de tendresse. « Un jour, mon bon André, tu seras prêtre. Tu monteras à l'autel et tu prieras pour ta mère. » Sa mère a semé, puis elle a laissé toute la place à Dieu. Dieu ne semble pas pressé. Pas plus qu'André Hubert qui écrit à la première page d'un de ses livres. « Ce livre appartient à André Hubert, bon garçon, qui ne sera jamais ni moine ni prêtre. » Dieu travaille avec le temps. Après ses études classiques, il étudie le droit. Mais il écrit si mal qu'il ne peut prétendre à la magistrature. Sans consulter personne, sur un coup de tête, il s'engage dans l'armée. Un jour, dans son costume militaire, il se présente chez son oncle, curé de Saint-Pierre de Maillet. L'accueil est sec. Votre visite se trompe d'adresse. Je n'ai pas monsieur de neveu dans l'état militaire. Où aller ? Une porte lui est toujours ouverte, celle du cœur de sa mère. Madame Fournet dirige son fils vers un de ses oncles, curé à Ems, dans la Vienne. Une visite à cet oncle pendant les vacances constitue un tournant. La notice d'Antoine Charles Cousseau portera... L'effet de ses entretiens sur l'esprit du jeune Fournet fut prodigieux. Dès lors, il résolut de quitter l'étude du droit pour celle de la théologie. Sa résolution, une fois arrêtée, le remplit de consolation. Il en fit part à ses parents qui jugèrent aisément, par la manière dont ce changement s'était opéré, qu'il ne venait point de légèreté et d'inconstance. Ils y applaudirent de tout leur cœur. André Hubert a alors 22 ans. Il existe alors à Poitiers, outre le séminaire, un autre établissement pour se préparer à l'ordination. C'est le petit séminaire Saint-Charles. André Hubert y est pensionnaire de 1774 à 1776 en vue de la préparation aux ordres. Comme il n'est pas de spiritualité qui ne soit appuyée sur une théologie, deux fondements apparaissent clairement pendant ces années de formation. Tout d'abord, André Hubert Fournet suit les cours des Jacobins. L'enseignement ne peut donc être que celui de saint Thomas d'Aquin. En outre, il existe alors un manuel utilisé dans la plupart des séminaires, manuel portant le nom de Théologie de Poitiers. On doit la première édition, datée de 1708, en 4 volumes, à Mgr Jean-Claude de la Poippe de Vertrieux. Il est rédigé à partir de notes prises au séminaire Saint-Sulpice, fondé par Jean-Jacques Ollier en 1641-1642, et revu par deux jésuites, professeurs de théologie à l'université de Poitiers. Ordonné prêtre, André Hubert devient vicaire en cette excellente école de son oncle d'Ems pendant 3 ans. Il prend ensuite possession de la cure de Saint-Pierre de Maillet. C'est par choix de son oncle, un autre des frères de son père, curé de Maillet. Peu de temps après, son genre de vie se simplifie jusqu'à l'austérité. André Hubert est un bon prêtre, mais il aime bien recevoir avec un certain luxe ses confrères et ses amis. Un jour, monsieur le curé attend du monde. Sa table est richement préparée. La porte de la salle à manger au premier étage du presbytère est ouverte pour l'accueil. Dans l'escalier, un bruit de pas. André Hubert va joyeusement au-devant de son hôte, surprise. C'est un mendiant qui demande l'aumône. Monsieur le curé est embarrassé. Je n'ai pas d'argent.
Comment pas d'argent ?
Réplique le pauvre. Et votre table en est couverte. Monsieur Fournet fut vivement frappé de cette parole. Sa foi lui persuada que c'était Jésus-Christ lui-même qui lui adressait ce reproche par la bouche d'un pauvre. La parole du mendiant est pour André Hubert parole de Jésus-Christ. Il pleure longuement, prosterné sur les dalles de l'église. Par la parole du mendiant, Jésus-Christ est entré dans son cœur. André, ardent et généreux, André Hubert a eu le courage de la conversion. C'est dans cette ligne spirituelle du dépouillement que peut être situé l'exil en Espagne avec son lot de pérégrinations, d'incertitudes et de recherches, conséquence des décrets pris à l'égard des prêtres réfractaires. André Hubert refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé. Il est désormais prêtre errant, sans paroisse, sans église, sans demeure. Il doit se cacher, sa vie est en danger. Confiant en la Providence, il décide de partir. Il prend le chemin de l'exil vers l'Espagne. L'Espagne accueille le prêtre français, le fugitif. De 1792 à 1797, André Hubert est réfugié à Los Achcos, petite ville de Navarre. Mais ses paroissiens de Saint-Pierre de Maillet, délaissés, lui manquent. Il entend leur voix. Alors il décide de revenir seul en France. En France, ce n'est pas l'accalmie espérée. Les prêtres réfractaires sont à nouveau en danger, les temps sont difficiles. C'est encore l'ère des catacombes. Mais notre pasteur est courageux. André Hubert célèbre l'Eucharistie clandestinement, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, par prudence. C'est au Marsilis qu'il se cache. C'est à partir de là qu'il rayonne. C'est dans cette grange que se présente, une nuit, Jeanne-Élisabeth Bichier des Âges, châtelaine des environs. Dans cette assemblée de paysans de métayers, elle fait sensation. On s'écarte pour la laisser passer. Le prêtre intervient vivement. Croyez-vous, mademoiselle, que je vais laisser pour vous entendre ces mères de famille, ces pauvres paysans venus de plusieurs lieux ? Humblement, la jeune fille répond. Mon père, j'attendrai. Il suffira que vous consentiez à m'entendre. Après eux, et elle attendit de longues heures. Elle y retourne souvent par la suite. Dans cette grange dite des Marsilis, Élisabeth trouve le conseiller spirituel que sa prière demandait à Dieu. André Hubert voit dans Élisabeth une âme d'une beauté peu commune. Leur première rencontre fut décisive. Elle est à l'origine de la congrégation des Filles de la Croix, dont André Hubert et Élisabeth sont les fondateurs. La signification de ce lieu est clairement formulée des années plus tard par Jeanne-Élisabeth. Il s'est fait de grandes choses au Marsilis. Et les Filles de la Croix en particulier, peuvent vénérer avec une dévotion toute spéciale le coin obscur qui fut pour elles la grotte de Bethléem de leur institut. En France, des jours meilleurs se lèvent. En 1800, André Hubert revient à Maillet et en 1802, il rentre de nouveau dans son presbytère. Sa paroisse est une famille. Dans tous les foyers, on l'appelle le bon père. Ses paroissiens, il les connaît tous, il les aime et en est aimé. André Hubert, un bâtisseur, un rassembleur. Au lendemain de la Révolution, il veut faire instruire les enfants et soigner les malades. Il confie cette mission à Élisabeth, la jeune châtelaine, qu'il a rencontrée à la grange des Marcillis. Autour d'Élisabeth, une petite communauté naît. André Hubert devient le formateur spirituel et apostolique de cette nouvelle famille qui prendra le nom de Fille de la Croix. Après 40 ans de ministère paroissial, le bon père André Hubert quitte Maillet pour se consacrer à la congrégation des Filles de la Croix, qui désormais demeure dans un ancien couvent de Fontevriste à l'appui. Jusque dans sa vieillesse, le bon père a gardé un air de simplicité et d'humilité. Au soleil de l'amour de Dieu, la transfiguration de son être se poursuit. Le 13 mai 1834, André Hubert ouvre ses yeux au soleil sans déclin, sera canonisé par Pie XI le 6 juin 1933, en la fête de la Pentecôte. Voyez un peu la spiritualité de ce saint. Les lettres d'André Hubert permettent de découvrir la façon dont le père Fournet tisse ensemble bon sens pratique et questions d'organisation, sollicitude pour les filles de la croix et conseils spirituels, examen de conscience par un jeu de questions et allusions à une phrase biblique. Il est légitime de penser qu'il vivait pour lui-même les conseils donnés. Pour lui, il s'agit d'unir la vie intérieure avec la vie active. Un thème majeur se détache nettement à la lecture de ces lettres. Il s'agit de la référence à Dieu comme Trinité. Plusieurs postures de foi sont indiquées par l'usage de verbes dans la relation à la Trinité. Aimer, honorer, remercier, adorer, louer, offrir, croire, converser, méditer sont les plus fréquents. La Trinité est nommée comme une présence, comme une habitation. Il s'agit donc, pour le citer, de favoriser l'union et l'entretien avec elle. Ainsi, quand on a la source, on se passe volontiers des ruisseaux. C'est donc un langage de vie et de relation qui est utilisé. Ce langage a des implications morales. Il s'agit véritablement, dit-il, que votre cœur croisse dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La nomination explicite des trois personnes de la Trinité apparaît de nombreuses fois. Dans certains cas, la confession de foi trinitaire est développée. Gloire au Père qui m'a créé à son image. Gloire au Fils qui a donné sa vie pour moi, qui m'a donné son cœur. Gloire au Saint-Esprit qui demeure en moi pour m'assister en tout. Que votre premier soin soit de former en vous Jésus-Christ. Cette concentration sur le Christ s'exprime par deux verbes. Former en soi Jésus-Christ et l'imiter. Le Père Fournet s'attache surtout à la croix et au crucifié. Le nom même de fille de la croix teste la fécondité de cette contemplation et cette suite du crucifié. Pour lui, il y va du sens de la vie apostolique. C'est ainsi qu'il écrit à l'abbé Thory « C'est le partage des apôtres que je vous offre, la croix ». Pour André Hubert, la radicalité évangélique appelle à se dépouiller de soi pour revêtir Jésus-Christ. Tel est le chemin du disciple. Si la croix dévoile le vrai visage de Dieu, elle donne aussi de se connaître personnellement. La foi est ainsi comprise comme une foi pratique. L'invitation à jeter les yeux sur le crucifix, encore plus sur le divin crucifié lui-même, ne peut pas être séparée de la résurrection. En effet, dit saint André Hubert Fournet, reprenant saint Paul, nous ne vivons plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Un tel chemin spirituel invite à reconnaître son néant pour mieux souligner la grandeur de Dieu. Le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques ont dû mettre dans votre âme des lumières qui vous ont convaincu de plus en plus du néant du monde et de la grandeur de Dieu. C'est à cette lumière qu'il est possible d'interpréter le langage de mortification et de renoncement largement utilisé par le Père Fournet. Il traduit le combat spirituel qu'il convient de mener contre soi et contre le péché. Là se tient un troisième trait majeur de sa spiritualité, les exigences posées et les conseils donnés abondent dans ce domaine. Au sortir du siècle des Lumières et du culte de l'être suprême, mais aussi dans un contexte où l'influence pratique du jansénisme perdure, l'humanité de Dieu dont témoigne sa correspondance doit être saluée. Tout d'abord, le Père Fournet fait appel au divin cœur de Jésus, ou encore à ce divin cœur qui vous aime. Pour lui, on ne craint rien quand on aime. Ou encore, quand on aime, on ne craint rien de la personne aimée. Dans les tentations et les épreuves, il invite au courage, le conseil est précis. Adressez-vous au divin cœur de Jésus et vous serez victorieuse. Le mot cœur doit être entendu en son sens biblique, éclairé par les maîtres du XVIIe siècle. Sa compréhension du péché confirme ce trait de sa spiritualité. Pour lui, en effet, c'est le consentement qui fait le péché, non la pensée ou le sentiment. Ailleurs, il précisera « Tout ce qui est en nous, malgré nous, n'est pas péché. Ce n'est pas la pensée, le sentiment même du mal, mais le consentement de la volonté qui fait le péché. Sans le consentement de la volonté, on ne pécherait pas. » Cette mise en évidence de la volonté personnelle fait écho au courage évoqué dans les épreuves. Ainsi, le langage des mortifications et des renoncements est bien plutôt à situer dans une spiritualité qui prend au sérieux le fait de l'incarnation de Dieu dans nos histoires d'hommes et de femmes, avec les combats inhérents à toute existence humaine. Dès lors, ce langage peut être interprété comme un chemin pour connaître et accomplir la volonté de Dieu. En effet, ce n'est pas votre volonté qui doit se faire, mais celle de Dieu. Les fruits d'un tel cheminement se donnent à reconnaître. N'oubliez jamais qu'il faut être religieuse, et qu'une vraie fille de la croix est une fille d'humilité, de pauvreté, de détachement, d'obéissance, de patience, de douceur, de recueillement. Le Père Fournet fait souvent référence à l'Esprit-Saint. En suivant ses lumières et ses inspirations, il convient de lui être toujours docile en vivant dans sa dépendance. Pour ce faire, il s'agit de l'écouter et de le consulter. Puisque vous recevez la vie du Saint-Esprit, laissez-vous conduire par lui. Cette liberté spirituelle se prolonge en deux recommandations. Tout d'abord, prenez garde de le contrister. Ensuite, craignez la tiédeur, elle chasse le Saint-Esprit des cœurs. Le Père Fournet fait allusion à la parole de Dieu, à l'Écriture. Elle n'est jamais citée explicitement, mais elle imprègne constamment son propos. Il est une expression particulièrement révélatrice. Si vous connaissiez le don de Dieu dans votre vocation, et votre mission, vous répéteriez « Mon âme glorifie le Seigneur ». Cette exclamation « Ah, si vous connaissiez le don de Dieu » revient plusieurs fois. Cette référence à l'entretien entre Jésus et la Samaritaine en Jean 4,10 appelle une réponse « Je suis la servante du Seigneur ». Telle est la deuxième référence évangélique, la plus fréquente dans les lettres. Cette réponse de Marie introduit une attitude de disponibilité. Le détachement de l'amour propre ouvre au service des autres. En effet, la charité du Christ nous presse. Deux éléments permettent de présenter ce quatrième trait de spiritualité concernant l'exercice pratique de la charité du Christ. Les premières constitutions des filles de la croix traduisent ce réalisme spirituel. Leurs œuvres sont l'instruction des pauvres de la campagne. Elles visitent les pauvres malades pour les instruire, les consoler, leur procurer des secours, les soigner et les préparer à la mort. Il s'agit donc de traduire en acte le zèle pour le salut des malades et des enfants. mais l'expression de la charité du Christ s'enracine dans la méditation de sa vie. C'est ce par quoi s'ouvrent les premières constitutions. C'est à cette lumière qu'il est possible de choisir un état de vie. Et citer en exergue des premières constitutions, Jean 8:12. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » C'est donc la référence au Christ qui ouvre les premières constitutions. Au commencement, dit toujours la notice, cette puissance surhumaine de la charité s'est manifestée d'une manière bien éclatante par les œuvres d'un pauvre prêtre. Cet homme à peine connu du monde, sans autre fond que celui de la providence, sans autre crédit que sa piété, est parvenu à procurer le bienfait d'une instruction chrétienne à des milliers d'enfants, à secourir un nombre infini de malades depuis Bayonne jusqu'à Cambrai, et à prolonger, au-delà des bornes de sa vie, les œuvres que sa charité avait conçues. Cette charité s'enracine dans la figure du bon pasteur. André-Hubert Fournet exerce ce ministère pastoral par un souci d'éducation de la foi, en même temps que dans la vie sacramentale, spécialement l'Eucharistie. Sa charité pastorale est alors largement reconnue par la population qu'il appelle communément le bon père. André-Hubert Fournet porte le souci de la relève. Au lendemain de la Révolution française et de la réorganisation post-concordataire de l'Église, la tâche est immense. En France, le premier tiers du XIXe siècle marque l'apogée des écoles fondées et tenues par des prêtres. On assiste à une floraison de ces écoles. Le père Fournet, quant à lui, rassemble quelques enfants amaillés pour leur apprendre les premiers rudiments nécessaires à leur formation ultérieure. C'est ainsi qu'il a contribué à l'appel et à la formation d'environ 40 prêtres au service du diocèse de Poitiers. Il a également songé à une société de prêtres, un document l'atteste, intitulé « Règlement provisoire pour les pauvres enfants et pères de la croix ». Le pape Pie XI devait noter au sujet de saint André-Hubert Fournet. Il fut vraiment humble. Lui qui pouvait profiter de la position de sa famille pour aspirer aux grandeurs humaines et briller dans le siècle, il s'humilie jusqu'à consacrer toutes ses énergies, toute sa générosité, son dévouement aux petits, aux humbles, aux pauvres. S'il s'est humilié, Dieu l'exalte maintenant dans la gloire. Ensuite, toujours selon la parole officielle de l'Église, André Hubert nous apparaît sous les traits d'un véritable apôtre. Quel zèle ardent! Quelles œuvres n'a-t-il pas accomplies? Quels obstacles n'a-t-il pas surmontés? Âme tellement enflammée de la charité du Christ que le champ qu'on lui a donné à cultiver ne lui suffit pas. L'Église, lors de sa fête le 13 mai, une fête célébrée dans le diocèse de Bayonne, à cause bien sûr de la présence des filles de la croix, dont il est le fondateur, l'Église contemple cette famille religieuse consacrée au salut des âmes qu'il a fondée par grâce et nous fait demander que, soutenus par son exemple et brûlant de charité, nous recherchions tout la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, par saint André Hubert, tu as fait naître dans ton Église une nouvelle famille religieuse consacrée au salut des âmes sous le signe de la croix. Permets que, soutenu par son exemple et brûlant de charité, nous recherchions toujours et en tout ta sainte gloire.
Merci à l'abbé Philippe Baïtia pour cette présentation de saint André Hubert Fournet, 1752-1834, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix, en collaboration avec Jeanne-Élisabeth Bichet des Âges, saint André Hubert Fournet est fêté le 13 mai.